Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, qui peut encore résoudre le conflit israélo-palestinien ? Dans un monde submergé par la guerre en Syrie, la crise des migrants, le changement climatique et le ralentissement de la croissance, qui se soucie encore du conflit israélo-palestinien, épicentre des relations internationales durant près de 70 ans, la guerre au Proche-Orient semble être passée au second plan, aussi bien dans les médias que dans les chancelleries. Alors dans un tel contexte, l'initiative française a de quoi surprendre. En effet, il y a 10 jours, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, annonçait la tenue d'ici la fin du mois d'une grande conférence internationale à Paris pour relancer le processus de paix, conférence à laquelle ne seront conviés ni Israël ni les Palestiniens, du moins pas tout de suite. À leur place, une vingtaine de pays plancheront sur les bases d'une nouvelle feuille de route, avant de convier ensuite les belligérants à dialoguer. En attendant, sur le terrain, les acteurs s'enfoncent dans un nouveau cycle de violence. Alors, en l'absence d'espoir sur place, le reste du monde peut-il prendre le relais ? Mais la communauté internationale, si tant est qu'elle existe, en a-t-elle les moyens et surtout la volonté ? Qui peut encore résoudre le conflit israélo-palestinien ? C'est notre sujet du jour. Trois invités pour en discuter ce soir. Yves Aubin de la Messusière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur de France. Vous avez notamment été directeur du département Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères. Et je précise que vous êtes l'un des signataires de la tribune parue dans Libération le 25 avril dernier en faveur et en soutien de l'initiative française. À vos côtés, Alain Dikoff, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur du CERI. Le CERI, donc le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Parmi vos ouvrages, je n'en cite que deux et on les retrouvera sur le site internet. La Nation dans tous ses états, les identités nationales en mouvement, c'était chez Flammarion en 2012. Et le conflit israélo-arabe, 25 questions décisives chez Armand Collin en 2011. Et notre troisième invité est au téléphone depuis Jérusalem. Il s'agit de Frédéric Chilot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et spécialiste d'Israël et des relations internationales. Vous êtes notamment l'auteur, avec Marius Chatner, de « La guerre du Kippour n'aura pas lieu, comment Israël s'est fait surprendre » et publié aux éditions André Versailles, c'était en 2013. Alors est-ce que le préalable à toute tentative de remise sur pied du processus de paix, ce n'est pas d'abord, Yves Aubin de la Messusière, d'acter que toutes les initiatives passées ont été des échecs ?
Oui, je crois que l'initiative française prend acte du fait que le statu quo, donc d'abord, comme nous le disions dans le titre de la tribune, est mortifère, qu'il est extrêmement dangereux pour la stabilité, d'abord en Israël et en Palestine, et aussi pour toute la région. Parce qu'on a cru, au moment de l'émergence des révolutions arabes, ce qu'on appelle les printemps arabes, que le conflit israélo-palestinien avait perdu de sa centralité. Or, même si tout ne doit pas être ramené, évidemment, au conflit israélo-palestinien, quand il s'agit des crises syriennes, irakiennes et autres, mais il n'y a pas de doute que s'il y avait une perspective, cela aiderait à la solution de ces tragédies, hein, qui mobilisent la communauté internationale. Mais on voit bien la situation telle qu'elle s'est développée depuis à peu près 8 mois dans les territoires palestiniens, avec ce qu'on appelle la guerre des couteaux, une autre forme d'intifada qui apparaît beaucoup moins grave et moins amplifiée que les deux précédentes intifadas, mais elle est peut-être beaucoup plus dangereuse pour l'avenir, parce qu'elle n'est absolument pas encadrée, ni évidemment par l'OLP ou le Fatah, ni par le Hamas et le djihad islamique, qui s'y sont essayés.
On va revenir sur la situation sur le terrain. Vous disiez le statu quo mortifère, et pourtant toutes les tentatives, et notamment la dernière menée par les États-Unis entre 2013 et 2014 sous l'égide de John Kerry, s'est aussi soldée par un échec. Est-ce que, Alain Dikoff, on a tiré les leçons de ces derniers échecs de médiation ?
Je dirais pas vraiment, parce que autant je pense que d'un côté, le fait que la France essaye d'occuper un petit peu un vide diplomatique évident doit être salué. En même temps, je suis quand même très réservé sur la possibilité que cette conférence puisse véritablement réenclencher une dynamique vertueuse sur le long terme. Je pense malheureusement que le conflit israélo-palestinien pâtit en fait d'une évolution géopolitique régionale malgré tout. C'est-à-dire que je crois qu'il demeure évidemment un point de cristallisation essentiel, mais en même temps, il est devenu géopolitiquement marginal parce que il y a des dans la région malheureusement des foyers de tension autrement plus dramatiques qui se sont développés. On pense évidemment à la Syrie, mais même finalement la question nucléaire iranienne a ces dernières années occupé une place beaucoup plus centrale géopolitiquement, je veux dire, que le conflit israélo-palestinien. Et donc du coup, il y a eu une certaine fatigue, je crois, assez générale de beaucoup d'acteurs aussi bien régionaux qu'internationaux. Qui n'ont plus véritablement voulu intervenir pour tenter de trouver une solution, et on en est malheureusement là aujourd'hui.
Frédéric Chillot, est-ce que vous partagez le constat qui a été fait par Alain Dikoff que le conflit israélo-palestinien est un peu sorti du champ de vision du reste du monde ?
Oui, évidemment, le conflit israélo-palestinien aujourd'hui passe au second plan. Quand on pense au Proche-Orient, on pense à Daesh et à la menace de Daesh qui est terrible chez les voisins d'Israël. Le conflit est passé au second plan et pourtant, vous le disiez, avec l'intifada des couteaux, la menace est toujours importante, le conflit est toujours présent. Et puis surtout, on est à un tournant de la situation entre Israéliens et Palestiniens. Le conflit israélo-palestinien est un conflit typiquement territorial, nationaliste. Or aujourd'hui, avec ce statu quo qui n'en finit pas, et pendant ce temps la colonisation continue, c'est un statu quo effectivement mortifère, eh bien la situation est peut-être en train de changer et on arrive à un conflit qui devient de plus en plus religieux du côté palestinien, mais également du côté israélien, avec notamment les nationalistes religieux de plus en plus présents dans la politique israélienne.
Frédéric Chillot, est-ce que vous voulez dire que le conflit tendrait à redevenir quelque part, enfin, ou devenir un conflit plus local, alors que durant des décennies, il a été posé comme un enjeu régional, voire un enjeu mondial ?
Oui, c'était un conflit internationalisé, en fait, depuis les années 50. Et puis, il est devenu, il a échappé au champ de vision des grandes puissances. Et vous le disiez, les États-Unis ont quitté un peu le Moyen-Orient. En tout cas, la dernière tentative de relancer le processus de paix qui a été faite par John Kerry, selon un processus très classique de diplomatie, de la navette, de diplomatie des petits pas qui avait été menée par exemple par Kissinger dans les années 70 et qui avait réussi, eh bien cette tentative a échoué et elle s'est soldée par un échec flagrant des États-Unis. Et aujourd'hui, il y a un divorce israélo-américain terrible du point de vue diplomatique, dans la relation entre Netanyahou et Obama, bien sûr, mais aussi un conflit militaire, puisque en ce moment même, l'aide américaine est en train d'être négociée en Israël, et il se pourrait que l'accord ne soit pas signé. En tout cas, c'est ce qui se dit ici. Le fait est que les Français, avec cette initiative de paix, veulent effectivement profitent de l'absence des États-Unis pour initier une nouvelle initiative de paix. Elle est très mal accueillie ici en Israël, mais elle pourrait relancer quelques idées, pourquoi pas. Et je pense qu'il ne faut pas être si négatif que cela concernant cette grande messe diplomatique qui doit avoir lieu à la fin du mois.
On va revenir sur les réactions d'Israël face à l'initiative française. Yves Aubin de la Messuzière, vous vouliez réagir?
Oui, d'abord qu'effectivement, la dimension religieuse risque de prendre le pas sur la dimension proprement nationaliste. On le voit bien, donc, la querelle qui s'est déroulée autour de l'esplanade des mosquées. Quand on a pensé à un moment qu'Israël, ce qui n'est pas la réalité du gouvernement israélien, mais enfin de certains membres du gouvernement israélien, en tout cas, de remettre en cause le statut. Mais on assiste aussi à une forme de daïchisation des esprits chez les Palestiniens. C'est la réalité à Gaza que j'ai pu moi-même observer à l'époque Daesh et l'État islamique n'existaient pas, de voir qu'à la droite du Hamas, il y a des mouvements djihadistes à Gaza. Ils existent, bien entendu, en Cisjordanie et même en Israël, puisque parmi la communauté arabe-israélienne, palestinienne-israélienne, donc il y a eu quelques dizaines, dit-on, ce sont les services israéliens qui le disent, qui ont rejoint l'État islamique récemment. Donc là, c'est véritablement un risque. Si la situation reste bloqué. Mais pour revenir à l'initiative française, d'après ce que je comprends, l'idée n'est pas de se substituer aux Américains qui ont un rôle principal, bien entendu, et dominant, mais de partir du constat de l'échec de tous ces exercices depuis 1993. Et aussi, à l'époque de Bush fils, il y a eu l'exercice Annapolis, du même type, qui a débouché sur un échec. Il y a eu aussi la mission du sénateur Mitchell au début du mandat de Barack Obama, qui a vite échoué. Et puis, il y a eu l'exercice lancé par Kerry. On avait l'impression qu'il était le seul à y croire. Donc, l'objectif, c'est de remobiliser la communauté internationale. De trouver, il y a longtemps qu'on le dit, et d'ailleurs, on le disait même à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui avait essayé de lancer une initiative, il faut changer de méthode. La méthode des négociations bilatérales sous l'égide américaine, en appui avec le quartet. Et donc, il faut élargir le cadre. Et c'est ce qui va se passer, puisque à Paris, c'est une vingtaine de participants qui vont donc participer à cette première réunion niveau ministériel et qui, si ça fonctionne, devrait déboucher avant la fin de l'année, donc à une autre conférence avec cette fois-ci les partis.
Donc des membres du quartet, des nations européennes, mais aussi des nations arabes. Votre regard, Alain Dikoff, sur cette volonté de changer de méthode, est-ce que c'est un changement pour vous vraiment radical? Et est-ce qu'il apporte les garanties de ne pas se retrouver dans l'impasse comme les autres tentatives de médiation, notamment sous l'égide des États-Unis, comme c'est le cas depuis des décennies?
Je dirais un changement radical, non, parce que nous avons déjà eu en effet une série de conférences internationales, a commencé par celle de Madrid en 1991, donc ça nous ramène à 25 ans en arrière. La différence, c'est que au moins dans cette première phase, les parties ne seront pas présentes en tant que telles. C'est ça qui change un tout petit peu le format, c'est-à-dire que les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas invités dans la première phase.
C'est la première fois qu'on tente de résoudre un conflit en se réunissant entre différentes puissances du monde sans convier les belligérants.
Alors je pourrais pas faire une comparaison, si vous voulez, un peu sauvage avec d'autres modes de règlement diplomatique. On peut peut-être trouver des précédents. Ce qui est sûr, c'est que dans le cas précis, c'est une modalité un peu nouvelle, mais elle ne peut être que provisoire, parce que c'est évident que si on veut continuer à aller de l'avant, il faudra un moment que les parties soient présentes. Et à mon avis, c'est là que le problème va surgir, parce que il est assez clair que ni d'un côté ni de l'autre, on a des parties qui sont vraiment soit désireuses, soit en mesure de négocier. Désireuses, je crois que la position du gouvernement israélien est très très claire. Ce gouvernement est très marqué à droite. Les nationalistes religieux dont Frédéric Chillot a parlé sont extrêmement présents, pèsent beaucoup sur le gouvernement, n'ont aucune envie de négocier. Il faut quand même savoir que un des ministres les plus importants, Naftali Bennett, est partisan de l'annexion pure et simple de 60% de la Cisjordanie à l'État d'Israël, donc les 60% qu'Israël continue à contrôler militairement de façon tout à fait directe. On voit très très mal un gouvernement avec une composition comme celle que je viens d'évoquer s'engager là-dedans. Du côté palestinien, le défi est différent, c'est qu'on sait que les Palestiniens depuis 2007 sont divisés en deux, géographiquement et politiquement, qui n'ont pas du tout les mêmes options politiques, puisque les uns sont favorables à un compromis, les autres, après l'avoir complètement rejeté, là je pense au Hamas, ont peut-être mis un petit peu d'eau dans leur vin, si je puis dire. Mais bon, on est quand même sur des positions assez assez divergentes. Et un Abbas qui aujourd'hui a 80 ans, n'a pas de successeur désigné et est extrêmement contesté en Cisjordanie même, n'est pas en mesure d'aller beaucoup de l'avant. Donc en fait, je dirais que si on est malheureusement un petit peu réaliste, on a beaucoup de raisons d'être très dubitatif sur les perspectives à moyen terme.
Frédéric Chilleux, vous nous disiez donc que l'initiative avait plutôt été mal accueillie en Israël. Benjamin Netanyahou l'a critiqué en disant que la meilleure façon de résoudre le conflit était la tenue de négociations bilatérales directes. Pourquoi cette préférence pour les négociations bilatérales directes qui sont, alors qu'elles sont pour l'instant dans l'impasse?
Je pense que cette déclaration de Benjamin Netanyahou, qui a été faite d'ailleurs dans un contexte très particulier, parce que c'était il y a 15 jours, au moment des fêtes juives de Pessah, au moment de vacances parlementaires, et donc c'était une façon de réveiller l'opinion, parce que finalement, Benjamin Netanyahou n'a pas de raison aujourd'hui, à 30 jours de la conférence, qui se tiendra donc sans les deux acteurs principaux de ce conflit, Netanyahou n'a pas de raison d'intervenir à ce point. C'était plutôt un message destiné à son opinion publique. Pour ce qui est de la façon de résoudre le conflit, les Israéliens, depuis toujours, privilégient un dialogue direct avec les Palestiniens. Bon, et cela se comprend, ils ne veulent pas d'intermédiaires, ils ne veulent pas de pression extérieure, pas de pression internationale, surtout pas celle venant de l'ONU qu'ils dénigrent, ou celle de l'Union européenne qu'ils méprisent, pour dire les choses réellement. Et ils privilégient donc un dialogue direct, ce qui est une façon aussi d'empêcher toujours la tenue de négociations, parce que quand Benjamin Netanyahou dit qu'il souhaite des négociations bilatérales sans conditions, c'est une façon en fait de rejeter les conditions que pourrait y mettre Mahmoud Abbas.
C'est la responsabilité de ce qu'on appelle par antiphrase la communauté internationale, c'est en clair les Américains, c'est à eux et accessoirement aux Européens, s'ils arrivent à s'unir un tout petit peu, de dresser le cadre de négociation, le cadre du règlement que tout le monde connaît, et de l'imposer aux parties, de manière à ce que nous puissions négocier la sortie de cette crise.
Une réaction à ces propos d'Eli Barnavi, l'ancien diplomate israélien. Il était interviewé par Laura Adler sur France Inter. C'était il n'y a pas si longtemps, le 31 octobre 2015. Eli Barnavi qui semble préférer donc un règlement américain coercitif plus qu'une concertation mondiale. Ivo Barnavi-Sézière.
Bien, écoutez, oui, et beaucoup d'Américains le pensent, et je suis sûr, même s'il ne le dit pas, que c'est ce que pense Barack Obama, hein, fondamentalement. Hein. Et il le pensait, en tout cas, au début de son premier mandat, hein, quand il avait essayé d'imposer l'arrêt de la colonisation. Il n'y est pas arrivé. Mais, à la fois, peut-être, ne sait-on jamais, à la fin du mandat, peut-être, de Barack Obama, certains pensent qu'il peut prendre véritablement une initiative aussi, qui serait dans le droit fil de l'initiative aussi française, c'est-à-dire avec l'élargissement du cadre. Parce qu'il faut se dire de manière très claire, ce qui n'a pas fonctionné depuis un quart de siècle ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire les négociations bilatérales sous l'égide américaine. Et on ne peut pas imaginer qu'il y ait une coercition, comme ce fut le cas donc il y a beaucoup plus longtemps, de la part des seuls Américains. Si véritablement la communauté internationale prend ce dossier en charge. Et il y a bien entendu les pressions, elles devront être faites davantage sur Israël, parce que c'est Israël qui a plus à donner, et notamment concernant cette colonisation. Il faut le savoir que depuis 1993, le nombre de colons a plus que doublé. Et actuellement, et encore récemment, à Jérusalem, il y a eu des centaines de nouvelles constructions qui ont été annoncées. Se poursuit aussi non seulement les exécutions extrajudiciaires, la destruction systématiquement de maisons aussi, et même de lieux qui sont d'ailleurs financés par l'Union européenne. On sent qu'il y a une évolution, et même, dit-on, aux États-Unis aussi, et parmi même la communauté juive. En tout cas, cette évolution, elle existe dans l'opinion française, elle existe dans les opinions européennes. On voit bien, même moi, personnellement, je suis contre le boycott. Mais il faut tenir compte du fait que ce qu'on appelle BDS, boycott des investissements sanctions, eh bien, ça fonctionne et ça fonctionne de plus en plus, y compris aussi aux États-Unis, et qu'on voit que l'Union européenne, sans, dénommer ces mesures comme des sanctions concernant la traçabilité des produits qui sont produits dans les colonies. Donc là, il y a un mouvement d'opinion, et c'est ce qui inquiète le plus l'État d'Israël. Et ce qui les inquiète le plus, c'est ce qu'on appelle souvent l'intifada diplomatique, menée par l'autorité palestinienne, certes très faible, maintenant qui joue sur les institutions internationales. Son adhésion à la CPI, là, c'est tout à fait important. Et puis aussi, ce qui s'est passé récemment à l'UNESCO concernant la protection du patrimoine palestinien à Jérusalem. Vous voyez, là, il y a ce mouvement-là qui, à mon avis, inquiète beaucoup Israël, qui pourrait l'amener, on peut l'espérer, à bouger.
Frédéric Chilo, une réaction notamment à ce concept d'intifada diplomatique?
Oui, effectivement, ça, les Israéliens sont très inquiets de cette intifada diplomatique, ce raz-de-marée diplomatique contre Israël, qui se manifeste par exemple par un boycott que la France refuse très officiellement, mais aussi par exemple par l'étiquetage des produits des colonies. À cela, Israël répond de manière très franche, il s'y oppose. Le gouvernement Netanyahou fait souvent référence aussi aux heures sombres de l'anti-israélisme ou de l'anti-sionisme. Et en novembre dernier, Netanyahou a pris la mesure très claire de suspendre l'Union européenne de son rôle dans le processus de paix pour s'opposer à cette décision d'étiquetage des produits des colonies. Donc vous voyez, les Israéliens vont très loin et aux pressions, ils répondent par un refus clair et net. Les pressions n'ont pas toujours d'ailleurs été... n'ont pas toujours permis aux négociations d'avancer. Et aux pressions, il faut en fait ajouter aussi des garanties politiques pour Israël, des garanties militaires pour la sécurité de l'État d'Israël.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Petite erreur dans la virgule, c'est bien Mélanie Chalandon au micro. Qui peut encore résoudre le conflit israélo-palestinien? C'est la question. Nous débattons ce soir jusqu'à 19h avec Alain Dikoff, directeur du CERI à Sciences Po, Frédéric Chillot, historienne et spécialiste des relations internationales, et Yves Aubin de la Messusière, ancien ambassadeur de France. Pour revenir sur l'initiative française d'élargir les négociations autour d'un nouveau processus de paix pour le conflit israélo-palestinien, est-ce qu'on ne prend pas le risque, en augmentant le nombre de participants, tout simplement, d'augmenter aussi les phénomènes d'inertie, de blocage, voire même de multiplier les expressions d'intérêt contradictoires, Alain Dikoff ?
A priori, je dirais non, parce que la fonction de cette conférence de la fin du mois de mai, c'est grosso modo quand même de réaffirmer des principes. Ces principes ne sont pas révolutionnaires, ils sont connus. Je dirais, c'est les principes qu'on a pu avoir avec les paramètres de Bill Clinton en décembre 2000, qui ont été réaffirmés dans le plan officieux dit de Genève en 2003 et dans tout un tas d'autres initiatives. Donc, en gros, le principe, c'est la logique des deux États, c'est-à-dire réaffirmer le principe des deux États. Sur quelle base? Grosso modo, sur la base des frontières de 1967, avec des échanges de territoire pour certaines zones qui sont déjà densément peuplées par des Israéliens depuis 1967, donc avec des échanges territoriaux, réaffirmer la question du démantèlement des colonies juives, la souveraineté partagée sur Jérusalem avec des modalités qu'il faudrait évidemment préciser, et puis pour ce qui concerne les réfugiés palestiniens, un système qui reposerait essentiellement sur des compensations financières, avec un droit très très limité à la réunification familiale qui pourrait tourner autour de 50 000 personnes. Voilà, grosso modo, il peut y avoir des variantes, si vous voulez, dans les plans qui ont pu être présentés, mais c'est à peu près ça, les purs. Donc, à mon avis, je prends pas beaucoup de risques en disant que on devrait plus ou moins réaffirmer ce type de paramètres, en les précisant plus ou moins, mais je crois que l'idée essentielle, finalement le message essentiel, c'est l'adhésion d'une partie importante de la communauté internationale à la solution des deux États, qui sur le terrain est de plus en plus difficile à mettre en œuvre, parce que les populations sont de fait évidemment de plus en plus mélangées, parce que comme l'a dit en effet très très justement Yves Aubin de la Mésusière, à partir du moment où vous avez un doublement de la présence israélienne démographiquement depuis 1993, eh bien évidemment, vous rendez de facto la solution à deux États de plus en plus compliquée. Donc, c'est cette contradiction dont il faudrait essayer de sortir, mais on n'est jamais parvenu à le faire.
Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises, finalement, dans le contenu de la proposition de paix.
A priori, non. Je dirais que... Et d'ailleurs, mais c'est en même temps important, je veux dire, dire par là que il s'agit pas, en ce sens-là, de bouder son plaisir, dans le sens où il faut, je crois, réaffirmer ses paramètres, même si il y a assez peu d'espoir, comme je l'ai moi-même dit, que les deux parties s'en saisissent et disent allons franchement dans cette direction. Donc, mais en même temps, je pense que c'est quand même important de réaffirmer encore une fois l'engagement finalement des grandes puissances, de l'ONU et d'autres autour de ces paramètres, parce que je crois qu'en effet ça reste malgré tout la moins mauvaise des solutions.
Frédéric,
la solution à deux États.
Frédéric Chilot.
Oui, comme le dit bien Alain Dikoff, ces paramètres existent, ils ne changeront pas, ils seront toujours sur la table des négociations. L'élargissement, je le trouve intéressant s'il concerne les bons acteurs. C'est-à-dire que dans cette conférence qui aura lieu à la fin du mois à Paris, le 30 mai, les États-Unis sont plutôt absents du Moyen-Orient. On sait très bien que Obama n'a plus de pouvoir décisionnel en cette fin de mandat. L'organisation de cette relance du processus de paix, si elle arrive à la deuxième étape, c'est-à-dire de faire amener à la table de négociation israéliens et palestiniens, ce serait sans doute à la fin de l'année ou au début d'année prochaine. On sera alors en une période assez politiquement fragile en France, parce que ce sera la fin, quoi qu'il arrive, du mandat de François Hollande. L'élargissement est intéressant s'il s'agit par exemple des acteurs arabes. Et là, je voudrais juste dire un mot de l'initiative arabe. Il se trouve que Israël, en ce moment, est en train de se rapprocher du monde arabe sunnite. Et en fait, c'est un contre-coup à la politique américaine envers l'Iran. De ce fait, Israël se rapproche des ennemis de l'Iran, donc c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les États sunnites, l'Égypte, un allié d'Israël depuis longtemps, la Turquie, avec laquelle Israël va sans doute renouer diplomatiquement très prochainement, mais aussi, par exemple, des États sunnites très proches des Saoudiens, comme les États arabes unis. Figurez-vous que le ministre de l'énergie israélien s'est rendu aux Émirats arabes unis. Il y a des relations très importantes avec les Saoudiens. Les proches des Saoudiens, par exemple, comme le Soudan, veulent même renouer et normaliser les relations diplomatiques avec Israël. Donc il y a un mouvement qui se fait jour, une nouvelle alliance diplomatique au Moyen-Orient. Et en élargissant cette conférence, justement, à ces États sunnites, plutôt proches d'Israël, il y a peut-être là un moyen de faire renaître le processus de paix, selon les modalités de l'initiative arabe de 2002, l'initiative saoudienne, qui sont donc celles qu'on a dites, deux États, Jérusalem pour capitale de l'État palestinien, et selon ces mêmes modalités connues, mais un deuxième souffle, et sur lequel les Israéliens auraient un partenaire plus fiable, en fait.
Vous voulez dire, Frédéric Chilot, que Israël finalement n'a jamais été aussi proche diplomatiquement de ses voisins arabes? Est-ce que ça peut constituer un terreau fertile pour relancer un processus de paix, Yves Aubin de la Messusière?
Oui, certainement. Donc, il faut donc maintenant, on connaît les acteurs, on connaît les participants à la conférence donc ministérielle du 30 mai, qui seront les mêmes probablement un peu plus tard.
Parmi ces nations arabes, notamment parmi les pays l'Égypte.
Il y a l'Égypte, bien entendu, et la Jordanie d'abord, parce que ce sont deux pays qui ont signé des accords de paix avec Israël. Il y a l'Arabie Saoudite, qui est, d'après ce que je comprends, très partante pour cette conférence. Et paraît-il, beaucoup de candidats des pays arabes et d'autres pays se présentent pour être, puisque en fait le jeu est assez ouvert. On parle d'une vingtaine de pays, ils n'ont pas encore été définis. Donc tout ça, bien entendu, est l'objet de discussions. Et je crois beaucoup, effectivement, à ce rapprochement. Il ne faut pas y mettre finalement une marque proprement sunnite concernant ce rapprochement, parce que l'Arabie Saoudite, comme la Jordanie et comme l'Égypte, sont, et comme Israël, en but donc au djihadisme radical et à l'État islamique. Donc là, il y a une convergence d'intérêts. Et voilà une raison pour laquelle il est temps de se sortir de ce statu quo et d'aller vers un règlement de paix. Et comme le disait Alain Dikoff, là maintenant, on en connaît les paramètres. Ce sont les paramètres de Clinton, complétés par ce tabac et ensuite par Genève. Et il y a aussi l'initiative dont vous venez de parler, Madame Chilo, concernant l'initiative arabe, qui est d'origine en fait saoudienne, hein, qui évoquait donc la normalisation, ce qui est très fort, entre les pays arabes et tous les pays arabes, avec Israël, en contrepartie de l'évacuation des territoires occupés.
Le fait que les États arabes aient non seulement la volonté, mais comme vous le dites, des intérêts à s'investir dans des négociations multilatérales pour résoudre ce conflit, ça c'est un phénomène nouveau, Alain Dickhoff ?
Ils ont toujours pu avoir des intérêts, parce que évidemment il n'y a pas une position arabe. L'Égypte avait joué depuis longtemps évidemment sa propre carte. La Jordanie a suivi et finalement chacun a toujours un petit peu joué aussi sa propre musique. Mais là c'est vrai que objectivement. C'est vrai qu'il y a un contexte qui fait qu'il y a de facto un certain rapprochement des positions qu'il faut évidemment analyser à travers le grand clivage qui aujourd'hui quand même traverse le Moyen-Orient qui est politiquement plus que religieusement finalement la fracture entre les chiites de tous bords c'est-à-dire aussi bien iraniens que libanais que maintenant les yéménites et de l'autre côté les différentes puissances sunnites. Donc là oui, là il y a quelque chose qui dans la politisation des identités religieuses, quelque chose qui conduit de facto un rapprochement, mais je m'empresse quand même de mettre un mais, je ne suis pas sûr que ça suffise, si vous voulez, ce contexte qui est a priori plus favorable, suffise finalement à pouvoir enclencher véritablement, encore une fois, une dynamique vertueuse qui pousserait finalement les Palestiniens et les Israéliens, soutenus par la communauté internationale et les États arabes voisins, à vraiment franchir le cap et à se dire, bon bah unissons-nous vraiment, réglons une fois pour toutes ce problème qui pourrait évidemment l'atmosphère depuis trop longtemps pour véritablement lui trouver une solution.
Alors on sait que la conférence internationale annoncée par Jean-Marc Ayrault avait déjà été préparée par son prédécesseur Laurent Fabius qui lui avait eu cette phrase assez étonnante. Il avait précisé qu'il pouvait y avoir reconnaissance automatique de la Palestine par la France en cas d'échec des négociations. Une précision que n'a pas repris Jean-Marc Ayrault. Est-ce que la France ne s'est pas privée là d'un outil de coercition qui aurait pu être efficace, Dominique Chilo ?
Oui, Frédéric Chilo. Mais
excusez-moi.
Effectivement. Le fait que les Israéliens aient refusé à ce point la négociation cette déclaration de Jean-Marc Ayrault était une sorte de provocation et elle a été vue comme telle par le gouvernement Netanyahou qui s'est empressé.
C'est celle de Fabius, pardon.
Oui.
Non, Fabius, attendez, je me permets de vous interrompre, Jean-Marc Ayrault a évoqué récemment, lorsqu'il a annoncé la conférence du 30 mai, il a dit qu'il n'y avait pas d'automaticité de la reconnaissance de l'État palestinien s'il y avait échec de la conférence, ce qu'a dit effectivement Fabius peu de temps avant de quitter le ministère.
C'est vrai. Jean-Marc Ayrault est revenu sur les propos de Laurent Fabius, puisque les Israéliens s'étaient opposés à cette déclaration de Fabius et qu'ils avaient annoncé que finalement, dans ces conditions, s'il y avait automaticité, pourquoi alors se rendre à une négociation ? Puisque avant même la négociation, on en connaît déjà le résultat, ce serait une reconnaissance automatique. Non, les Israéliens sont très opposés à cette initiative française dans ces modalités et sont très remontés contre la position française. On évoquait plus avant la position française à l'UNESCO. La France a voté à l'UNESCO une résolution indiquant que l'esplanade des mosquées, le mont du temple pour les juifs, n'avait aucun lien avec Israël et le peuple juif. Et ça, c'est vu comme quelque chose d'absolument scandaleux pour les Israéliens. Et donc, c'est très mauvais pour la position française qui avait été jusqu'à présent, qui se targuait d'être en tout cas une médiatrice entre Israéliens et Palestiniens.
Yves Aubin de la Messuzière posait comme préalable la reconnaissance de la Palestine en cas d'échec des négociations. Ça aurait été un préalable trop favorable aux Palestiniens ?
Non, je pense que sur le plan proprement diplomatique, même je suis en faveur de la reconnaissance depuis longtemps de l'État palestinien. Et parce que ça a été annoncé à plusieurs reprises par le président de la République, par les ministres des Affaires étrangères. Et bon, mais disons dans la perspective effectivement de cette initiative, c'était, je trouve, et j'étais surpris, plutôt maladroit. Et vis-à-vis, il faut le reconnaître, d'Israël, puisqu'on veut mettre Israël à bord. Vous voyez, donc de poser cette condition. Et d'ailleurs, je vois que les Palestiniens n'insistent pas pour une reconnaissance maintenant de l'État palestinien, parce que ils sont dans d'autres perspectives, comme je le disais, là, ces perspectives diplomatiques. Alors, je ne connais pas la résolution très précisément de l'UNESCO, qui n'a pas été votée uniquement par la France. Il y a plusieurs pays européens qui se sont associés, puis il y a eu, je pense, une large majorité. Les États-Unis, évidemment, ont voté contre. Je crois l'Allemagne et la Grande-Bretagne, mais beaucoup d'autres pays européens. Il s'agissait d'assurer la protection du patrimoine palestinien, comme et il n'a pas été mis en cause la protection du patrimoine israélien, parce que ça concernait, c'est autour d'un cimetière, je crois que d'un cimetière. Mais enfin, je ne connais pas le détail, mais je pense que cette résolution était véritablement justifiée.
Pour évoquer l'Europe avant la fin de cette émission, entre la crise des migrants, le Brexit, les partis populistes qui remettent en cause l'Union européenne, la crise ukrainienne aussi, est-ce que l'Europe elle a vraiment les moyens de faire du conflit israélo-palestinien une priorité de sa diplomatie, Alain Dickhoff ?
Ce qu'il faut souligner, c'est que ça n'est pas une initiative européenne, c'est une initiative française, c'est-à-dire
qui entend entraîner ses partenaires européens.
Sans doute, mais je veux dire le fait même que ce soit porté par une diplomatie nationale en dit long sur le fait que l'Europe n'est pas sur l'écran radar, ça paraît assez clair. Et une des raisons, c'est que il faut le dire, il y a une division sur cette question. On sait très bien que beaucoup de nouveaux pays entrants, maintenant ça commence à faire un petit moment qu'ils sont là, mais les pays d'Europe centrale, la République tchèque par exemple, la Pologne aussi, qui sont plus atlantistes que par exemple la France, sont aussi beaucoup plus critiques sur toute démarche qui serait perçue comme trop antagonique vis-à-vis d'Israël. Donc il y a une division assez claire au sein de l'Europe. Donc, quelque part, c'est plus facile aussi de mettre en mouvement, évidemment, une diplomatie nationale que de mettre 28 pays en mouvement qui, encore une fois, sur cette question-là, sont très clairement divisés.
En Israël, Frédéric Chillot, de quel œil voit-on le fait que l'initiative soit portée par la France ?
La France a toujours eu une position de médiatrice. Et en fait, elle le doit, sa position très particulière, hein. C'est à la fois la plus grande communauté juive d'Europe, c'est un État qui a eu des liens avec le monde arabe, après la décolonisation, très proche du monde arabe, et c'est aussi un État qui a des liens très particuliers avec les catholiques, en fait, et les catholiques d'Orient. Donc c'est un petit peu normal que la France porte ce processus en Europe. Mais encore une fois, les Israéliens voient d'un mauvais œil, en fait, l'initiative quand elle est portée, quand elle devient trop pro-palestinienne. Et en fait, c'est pourquoi Netanyahou a tant critiqué la déclaration de Fabius. Et effectivement, Israël souhaite que la France conserve son rôle traditionnel de médiatrice avec une position équilibrée entre les Palestiniens, pour lesquels elle souhaite un État, et Israël, pour lequel elle veut la sécurité et la bonne entente avec ses voisins arabes.
Position équilibrée, c'est le mot que nous retiendrons pour le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à l'émission. Yves Aubin de la Messusière, je rappelle, ancien ambassadeur de France. Alain Dickhoff, directeur de recherche au CNRS et directeur du CERI à Sciences Po. Je cite l'un de vos derniers ouvrages, Le conflit israélo-arabe, 25 questions décisives chez Armand Collin en 2011. Et merci beaucoup à vous d'avoir été au téléphone depuis Jérusalem. Frédéric Chillot, historienne spécialiste d'Israël et des relations internationales. Votre ouvrage avec Marius Schattner, La guerre du Kippour n'aura pas lieu, comment Israël s'est fait surprendre, aux éditions André Versailles, paru en 2013. Commentaires, réécoute, podcast, c'est sur notre site franceculture.fr. Du grain à moudre, une émission préparée par Fanny Richer, Cyril Baer, Antoine Dulster et Hugo Florent. À la réalisation ce soir, Anna El Fakir, prise de son d'Ofar Guéride. On se retrouve demain, 18h20. Refondation de l'école, que reste-t-il d'une ambition? C'est la question dont nous débattrons. En attendant, il est 19h sur France Culture.